Bonjour, Raymond Richard au micro pour l'émission Terre solidaire. D'abord, une bonne nouvelle, c'est que l'aide au développement, ça progresse. Et en 15 ans, 1990-2015, 1 milliard de personnes sont sorties de l'extrême pauvreté. Alors effectivement, il en reste encore 850 millions. Mais bon, prenons les choses bonnes comme elles arrivent. À quoi c'est dû ? C'est dû à l'éducation des filles. Et notamment, il y a des progrès en ce qui concerne la santé des mamans et des enfants. Et le point sur lequel le CCFD intervient depuis son origine, la lutte contre la faim et la malnutrition. Alors l'aide au développement, c'est ce que le CCFD fait, ce que d'autres associations font. C'est vrai que c'est important puisque ça donne un levier d'exemple. Ce n'est pas les quelques 400 projets financés par le CCFD qui vont sortir les pays du Sud de leurs difficultés. Mais c'est vrai qu'il y a un effet de levier d'entraînement. Et cette aide au développement, et notamment l'aide publique au développement, lorsqu'elle est bien orientée, elle peut être très efficace. Alors évidemment, il faut veiller, et là aussi c'est une des actions des associations, des ONG et du CCFD, ne pas financer de dépenses somptuaires ou de dépenses qui correspondent à des besoins identifiés par le Nord sans l'intervention du Sud. Et on sait bien que le CCFD ne finance pas de projets qu'il propose lui-même, mais qu'il finance les projets des partenaires. Et cette aide au développement, elle doit être aussi ciblée. C'est ce que le CCFD fait et il veille à ce que l'aide publique au développement, qui existe et qui est très importante, l'écart entre ce que le CCFD collecte et ce que l'aide publique au développement apporte, c'est de 1 à 500. Mais il est très important de faire que l'aide publique au développement soit bien ciblée. Par exemple, le CCFD et d'autres associations s'opposent aux aides alimentaires en nature, qui font concurrence à l'agriculture des pays sur place. Soutient les paysans pour refuser des investissements qui limitent leur liberté. Par exemple, soutenir les paysans qui rejettent les semences de coton OGM, achetées chères, qui nécessitent des engrais, qui nécessitent de l'irrigation et qui ne sont pas adaptées aux insectes, à la terre de ces pays. Et nécessitant de l'irrigation alors qu'il y a un réchauffement climatique, on voit tout de suite ce que cela donne dans des pays comme le Burkina Faso. Donc, le CCFD soutient ces pays du Sahel qui se sont organisés dans COPAGEN. COPAGEN, c'est une association pour refuser les semences qui viennent d'ailleurs et qui ne sont pas forcément adaptées au pays. Et puis, troisième point aussi, pour organiser une aide au développement efficace, c'est, en ce qui concerne l'aide publique au développement, eh bien, alerter sur les coupes budgétaires prévues. Et ainsi, en 2015, l'amendement pris à l'initiative des ONG a permis d'apporter 35 milliards d'euros supplémentaires. Pardon, 35 millions d'euros supplémentaires. Pas des milliards, bien évidemment. Donc, que l'argent soit bien utilisé, mais c'est difficile et ça exige qu'on suive les affaires. En tout cas, c'est positif et ça a permis de sortir 1 milliard de personnes de l'extrême pauvreté. Le deuxième point sur lequel je voulais attirer l'attention dans cette émission, c'est poursuivre l'engagement de la souveraineté alimentaire. Parce que derrière cela, ce sont des politiques agricoles qui sont à orienter pour en faire des politiques agricoles des États ou des instances internationales qui visent au bien commun, mais au bien commun des paysans, au bien commun des pauvres, et pas simplement au bien commun en termes généraux pour dire, eh bien, on produit plus, parce qu'on produit plus, mais pour qui ? Donc, une politique qui favorise la souveraineté alimentaire et qui donne la place à l'agriculture vivrière, paysanne et familiale. c'est-à-dire l'agriculture qui sert à la nourriture des hommes. On sait dans le monde que 70% de la nourriture vient de cette agriculture-là. Donc, il faut, et ça c'est un des engagements du CFD, protéger les marchés agricoles par pays ou par ensemble de pays. Par exemple, pas de volaille exportée et subventionnée vers les pays qui mettent en place la filière de la volaille ou des fermes d'élevage de poules. Donc, aussi, un point important, c'est essayer de faire que l'alimentation ne dépende pas strictement des marchés. J'achète, tu vends et les prix s'envolent et les gens sont affamés. Ce qui affecte les plus pauvres. Et c'est un intérêt bien compris. Le nôtre, pour la paix du monde, parce qu'on voit que dans beaucoup de cas, les guerres, les difficultés ont commencé avec des émeutes de la faim. C'était vrai dans l'Ancien Régime, que l'on se rappelle de la Révolution française en 1788-89. Il y avait eu de mauvaises récoltes, puis après, il y avait eu des prix qui s'étaient envolés, et le prix du blé était le double. Eh bien, c'est un peu la même chose pour les pays des tiers-monde. Lorsque le prix de l'alimentation fait que les plus pauvres sont exclus de cette alimentation, à un moment donné, il y a des manifestations, de la violence. On envoie les forces de l'ordre contre les paysans qui sont là tout simplement pour dire entre mourir d'une balle dans la peau ou mourir de faim, bon, on ne voit pas beaucoup la limite. En tout cas, il faut mourir. Donc, pour nous, la paix, et pour les pays, eh bien, mieux se nourrir, ça permet de rester, surtout lorsqu'on a une agriculture qui permet de vivre, de rester au pays, et ça limite l'émigration, c'est-à-dire l'immigration chez nous. Et là aussi, on voit bien qu'aujourd'hui, on a une montée en disant, eh bien, ras-le-bol, les migrants, etc. Mais prenons garde, faisons en sorte que les gens n'aient pas envie de quitter chez eux. S'il n'y a pas la guerre chez eux, s'ils peuvent se nourrir, s'ils peuvent vivre au pays, ils ne demandent que ça. Donc, l'engagement de la souveraineté alimentaire, ce sont des politiques agricoles, c'est le soutien de marchés agricoles, c'est de soustraire l'alimentation à un strict commerce, et puis soutenir donc cette agriculture familiale et paysanne avec la place des femmes, la mixité entre la culture et l'élevage, la préservation des systèmes pour favoriser l'accès aux semences paysannes, l'accès à l'eau aussi, et favoriser bien sûr l'autonomie agricole des pays. On mange ce que l'on produit localement. Et on peut se dire aussi, parce que quelquefois on s'est dit, mais après tout, si nous produisons beaucoup de céréales, on pourra les exporter. Mais à quoi ça sert de produire beaucoup de céréales en Europe pour exporter dans des pays qui n'ont pas d'argent pour acheter et qui, en plus, ne mangent pas ces céréales? Donc, c'est mauvais pour nous. Mauvais parce que il faut subventionner ces exportations. Mauvais pour eux parce que ces exportations viennent en concurrence de leur propre production. Donc, tout est mauvais. Donc, souveraineté alimentaire, cela veut dire une agriculture pour vivre, pour manger. Et il est vrai qu'avec l'incidence du réchauffement climatique, il y a des situations graves dans les pays du Sud, donc il faut en prendre la mesure. Alors le troisième point que je voudrais aborder, c'est de prendre un exemple, et entre autres, un programme qui s'appelle le programme Afrique Sahel pour la transition écologique. Parce que nous nous trouvons dans une situation, on parle de réchauffement climatique, alors c'est vrai que chez nous, bon, on se dit effectivement le mois de septembre le plus chaud depuis un certain nombre d'années, la sécheresse de l'été, bon. Mais il est vrai que dans des pays comme le Mali, eh bien, la profondeur des puits pour trouver l'eau est passée de 15 mètres en 2000, donc pour trouver l'eau, la nappe phréatique, elle était à 15 mètres. Maintenant, il faut creuser 30-35 mètres pour trouver la nappe phréatique, parce que le réchauffement climatique est une vraie réalité. Donc, c'est plus difficile. Et à certaines périodes, puisque les puits doivent être plus profonds, les puits tarissent, donc pas d'eau. Donc, l'utilisation des semences que l'on a présenté aux paysans comme étant la révolution verte, c'est mauvais, parce que pour ces semences, il faut souvent des intrants, il faut de l'irrigation. Donc, voilà des paysans qui ont fait des efforts, à qui on a fait miroiter que l'utilisation de techniques empruntées ailleurs marcherait, et en fait, ça ne marche pas. Alors que leur semence habituelle était plus adaptée, et que même elles sont mises quelquefois en difficulté parce que la température augmente et que le nombre de jours de pluie diminue, lui. Les saisons sont perturbées, les pluies tardives, quelquefois violentes. Alors des pluies tardives et violentes, ça provoque des inondations et la destruction des sols. Ainsi, par exemple, au Niger, un champ qui donnait 100 bottes de mil en 1990, aujourd'hui, avec un sol dégradé, à cause des pluies insuffisantes, ce même champ fournit 20 bottes. Donc, soutenir l'agriculture familiale reste important, et puis surtout, aider à trouver des solutions. Alors, ces solutions, eh bien, c'est entre autres mettre en relation les paysans des différents pays qui ont des expériences et qui peuvent échanger leur manière de faire pour intensifier leur agriculture. Et notamment, il y a l'action de Copagène, mettre en relation les gens qui travaillent sur des semences et qui ont des semences paysannes, promouvoir l'agroécologie et notamment planter des arbres. Alors, c'est vrai que souvent on dit, mais un arbre, ça, dans un espace donné, limite la production agricole qui est à ses pieds. Mais en fait, dans ces pays, eh bien, ça veut dire que à l'ombre d'un arbre, des plantes peuvent mieux pousser. Et puis, à l'ombre d'un arbre, et si on plante des arbres en clôture, eh bien, cette haie naturelle va limiter le vent. Les effets du vent va limiter, en ce qui concerne la bande subsaharienne, l'ensevelissement des terres par le sable transporté par le vent et par l'eau. Donc, par exemple, appuyer les producteurs de tomates pour qu'ils plantent des arbres et des haies pour clore les champs. Donc, se protéger du vent. Faciliter l'accès, enfin, dans ce projet Agriculture Sahel, il y a facilité l'accès au financement parce que il faut, pour promouvoir l'agroécologie, former les paysans, aider à la construction de ces puits et les aider à passer à l'agroécologie. Alors on a de bons résultats. Par exemple, une coopérative de riz à Sébéry. Là, on a pu canaliser l'eau, faire en sorte qu'il y ait une production de riz qui était traditionnel dans la boucle du Niger. Donc, quand même, un programme Afrique Sahel qui est une réalisation positive soutenue par le CCFD. Eh bien, voilà. Vous pouvez retrouver ces informations dans les numéros de Faim et Développement Magazine ou sur le site du CCFD. Et je vous dis bonne semaine à tous. Au revoir.